7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. Aujourd'hui, le divorce. Le divorce libre par consentement mutuel à 40 ans en France. C'est l'occasion de s'interroger sur le nouveau visage des familles avec des couples divorcés, remariés où la filiation est désormais devenue centrale pour bon nombre de pays. Un débat d'actualité en plein synode sur la famille à Rome. Divorce, remariage, concubinage, voilà quelques-uns des sujets qui sont débattus par les évêques à l'heure actuelle. L'Église peut-elle, doit-elle s'adapter aux évolutions des hommes et des femmes? Eh bien, nous en parlerons avec vous, Aurane de Motor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Yves Toledano, vous êtes avocat au barreau de Paris. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Spécialisé dans les divorces et fondateur de Radio Divorce. Il y a quelques mois, vous avez monté cette radio, première radio web consacrée au divorce et à la séparation. Sans cynisme.
Non, du tout. Non, non, c'est vrai que le nom ne donne peut-être pas envie de passer du temps dessus, passons-y, c'est morose. Mais en fait, on donne des conseils, on essaie de positiver au contraire la séparation et d'aider les gens qui sont en procédure de divorce.
Alors, nous parlerons aussi avec d'autres invités du divorce, notamment au Proche-Orient et puis en Asie. Et quant à vous, les voisins et les voisines, le divorce est-il compris, accepté ou toléré dans votre pays? On attend bien sûr vos points de vue, mais surtout vos témoignages. Si vous êtes divorcé, dites-nous comment vous vivez ce statut dans votre pays. 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous redonne le numéro. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages aussi qui sont postés sur le fil Facebook Scott qui est à Kinshasa en République démocratique du Congo. Je préfère ne pas divorcer pour le bien de mes enfants. On sait tous comment le divorce change énormément la relation entre le père et la mère. Les enfants en souffrent énormément. Il a raison de dire la relation entre le père et la mère qui, elle, demeure, hein, même une fois le divorce prononcé. Un internaute qui est à N'Djamena au Tchad qui nous dit « Pour moi, le divorce était essentiel. J'ai dû divorcer après seulement une semaine de mariage parce que j'ai découvert un grand mensonge que me cachait ma conjointe depuis 4 ans, depuis le premier jour de notre rencontre. Maudit soit ce jour, nous dit Xir N'Djamena. Damien, on a des témoignages évidemment souvent douloureux. 38 ans, à Cotonou, il nous dit « Je suis divorcée. J'ai aidé ma femme à ce que son commerce se porte bien. Elle s'est fait beaucoup d'argent et depuis qu'elle est capable de se débrouiller seule financièrement, elle ne me veut plus comme mari. C'est difficile. » Djibris, à Thiès, au Sénégal, nous dit que le divorce, certes, est plus courant dans mon pays depuis que la tradition est moins présente. Il ne faut pas croire que c'était parfait avant. Seulement, les couples essayaient de trouver des solutions pour ne pas divorcer. Maintenant, ils se laissent totalement aller. Alors ça, c'est l'éternelle grande question. Est-ce qu'on divorce plus aujourd'hui? Plus la société est permissive, plus la loi laisse des libertés individuelles, plus on divorce ou pas, finalement?
Si on divorce clairement plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, hein, les chiffres sont là, pour une raison simple, peut-être pour deux raisons. D'abord parce qu'il est plus facile de divorcer aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, un divorce amiable se fait en 2-3 mois, c'est pas très coûteux, on peut prendre le même avocat, c'est rapide, il n'y a pas de conflit. Donc les gens aujourd'hui ont des disputes, n'ont même pas le temps de se réconcilier, que deux mois plus tard ils se retrouvent divorcés. Donc c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Et puis aussi parce qu'on vit, dans une société où il y a peut-être plus de tentations, il y a internet, il y a même des sites spéciaux pour l'adultère, pour rencontrer un conjoint. Donc il y a malheureusement des risques de perturbation du couple, peut-être plus nombreux qu'à l'époque. Donc vous combinez les deux et vous avez plus de divorces qu'avant, bien sûr.
Ça ne veut pas dire, ceci dit, quand les couples ne divorcent pas, qu'il n'y a pas rupture, hein, bien sûr, pour les sociétés où ce n'est pas autorisé.
Alors c'est vrai que les chiffres le disent, on divorce plus qu'avant. Mais je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les trois quarts des enfants mineurs en France vivent avec leurs deux parents qui vivent ensemble. Donc tout le monde ne divorce pas. Il faut quand même pas forcer le trait. Et bien des gens essaient de vivre leur vie conjugale.
Une union sur trois, hein, en France, grosso modo. Si on compte aussi les unions non contractées réellement civilement.
Hein. Alors c'est vrai qu'il faudrait rajouter à la question du divorce la question de la séparation quand on n'est pas marié, parce que c'est aussi difficile, hein. Même si on n'est pas marié, se séparer,
si on a des
enfants,
bien sûr,
avec des enfants.
Je vous lis le message d'Emmanuel N'Djamena qui nous dit le divorce est devenu un fléau depuis que les femmes, vous savez, les femmes, toujours responsables de tout, se mettent au même plan que leur mari et leur en demandent trop. Le couple n'est plus aussi facile et fidèle qu'avant. Daoud, qui a 19 ans, qui est aussi à N'Djamena, nous dit à l'approche du mois du Ramadan, de nombreux couples se marient car les hommes cherchent une femme pour leur faire à manger. Après le Ramadan, ils divorcent souvent. Ça, c'est le point de vue, l'observation de Daoud, 19 ans, à N'Djamena. Allez, appelez-nous maintenant. On a envie de vous entendre de vive voix et de débattre ensemble. 33 1 84 22 71 71. On parle du divorce. Oran de Motor, nous sommes en plein synode sur la famille à Rome. Le divorce fait aussi partie des sujets abordés. Est-ce que vous pouvez nous dire très simplement de quelle manière et pourquoi ?
Alors, c'est-à-dire que aujourd'hui en France et dans bien des pays du monde, pour se marier à l'église, il faut d'abord se marier à la mairie. Voilà, c'est ça le chemin. On va d'abord à la mairie et ensuite on va à l'église. Et puis, dans la vie des catholiques, comme dans la vie de tout le monde, il arrive que les crises soient graves et que les gens se séparent. Alors, il n'existe pas de divorce religieux chez les catholiques. Par contre, il y a des catholiques qui sont divorcés civilement. Et puis, certains vont se remarier. Mais ils vont se remarier civilement. Ils ne vont pas se remarier religieusement. Alors, l'Église catholique le sait bien et elle accueille ces situations avec largeur de cœur, grande largeur de cœur. Mais les pères synodaux, ce dont ils débattent aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va accompagner ces familles ? Comment va-ce qu'on... Quelle place elles ont dans l'Église ? Et ils disent, mais venez à la messe le dimanche, divorcer, pas divorcer, remarier, pas remarier, vous êtes chez vous à la messe. Et certains catholiques disent... Ok, mais on est un peu sur un strapontin, nous. On est un peu sur un petit siège du bout du banc et on voudrait que ça soit mieux. Et l'Église les entend et va réfléchir à trouver des solutions à ces questions-là.
Alors, quand vous dites venez à la messe le dimanche, évidemment, on ne demande pas le livret de famille hein, à l'entrée de l'Église, Dieu merci, mais une personne divorcée peut-elle communier, par exemple ? Dans la réalité, que se passe-t-il ?
Une personne qui est divorcée et qui n'est pas remariée, elle peut tout à fait communier. Voilà. La question se pose quand la personne est remariée civilement. Voilà. C'est là que la question se pose parce que c'est un nouvel engagement et un engagement durable. Donc à ce moment-là, l'Église dit, alors là, il y a quand même un problème. Vous n'avez pas été fidèle aux promesses de votre mariage. Et votre premier mariage.
C'est ça, c'est perçu finalement comme une infidélité, comme un adultère, puisque le mariage n'est pas dissous aux yeux de l'Église si on pousse le raisonnement à l'extrême.
Alors, c'est-à-dire qu'on considère que dans ce second mariage civil, hein, qui n'est pas un mariage religieux, il peut y avoir de belles choses qui suivent, de la fidélité, du pardon, du soutien. Mais il y a quand même le problème du fait que le premier mariage est toujours là. Le mariage est toujours le premier mariage est toujours valide, si vous voulez.
Voilà. En réalité, tout ça varie beaucoup d'une paroisse à l'autre et d'un prêtre à l'autre, non ?
Alors, disons qu'il y a les grandes règles de l'Église et puis après il y a les personnes. Et il s'agit d'accompagner les personnes comme elles sont dans leur vie au mieux pour qu'elles vivent pleinement, en fait. J'ai envie de le dire comme ça. Mais il n'empêche que l'Église a des règles, a une doctrine. Et donc, il y a quelquefois un hiatus entre le désir des pasteurs d'accompagner, d'être présent, et puis les règles générales de l'Église. Et c'est ce dont va parler le synode. C'est pas le seul sujet, on va aussi parler de bien d'autres sujets.
Mais le divorce,
c'est un sujet important.
Alors, on va rappeler ce que dit le pape. Le pape, évidemment, il rappelle les points de doctrine, hein, c'est-à-dire le mariage est indissoluble, mais il a aussi reconnu lors de son voyage aux États-Unis, les familles parfaites n'existent pas. Bon, voilà, on le savait tous. Les croyants ne sont pas immunisés contre les changements de leur temps, et il dit aussi les divorcés font toujours partie de l'Église et ne doivent pas être traités comme des excommuniés.
Ben voilà, les divorcés font toujours partie de l'Église, qu'ils soient mariés ou remariés ou non. Les divorcés font partie de l'Église. Mais alors, ceci dit, il est quand même bon de le rappeler. Et le pape François, pour ça, il est formidable, parce qu'il le rappelle à temps et à contre-temps. Il n'y a pas de douane pastorale à l'entrée de l'Église. Il n'y a pas de douane. Donc tout le monde est bienvenu.
Alors le point de friction sur le divorce entre les évêques, puisque c'est un vrai sujet de discussion, hein, avec des dissensions.
Alors le point de friction, voilà, certains évêques, ayant entendu de façon fine ce que disent les gens qu'ils rencontrent, tous ces hommes et ces femmes et ces enfants qu'ils rencontrent, ils se disent, mais est-ce qu'on peut indéfiniment, pour toujours, dire plus jamais d'accès à l'Eucharistie et aussi à la confession. C'est ce plus jamais qui pose problème. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dans certains cas, dans certaines situations, pour certaines personnes accompagnées en église, au bout d'un certain temps, de dire, eh bien écoutez, voilà, vous êtes juste envers les enfants de votre premier conjoint, vous payez bien votre pension alimentaire, vous avez un vrai désir de participer à la vie de l'église, etc., etc. Un certain nombre de conditions, eh bien au bout d'un certain temps, on va de nouveau vous dire, mais écoutez, venez communier et puis venez vous confesser. Ça va vous aider aussi à faire vivre le pardon en famille.
C'est voilà. Ça. Donc des évêques qui plaident pour une forme de miséricorde finalement sur le divorce.
Alors c'est une forme de réalisme aussi que la vie sacramentelle, ça nous aide. Hein. Et puis c'est bien entendu aussi une forme de miséricorde qui est le maître mot du pontificat du pape François.
Voilà, vous faites bien de rappeler une forme de réalisme dans des contextes de déchristianisation, notamment pour l'Europe, hein, une vision plus pragmatique aussi.
Alors, c'est aussi une manière de se dire, mais comment est-ce que tout le monde peut se sentir chez lui en église? Parce que certains, d'eux-mêmes, vont quitter sur la pointe des pieds leur paroisse en se disant, je ne suis plus bienvenu. Je ne suis plus bienvenu. Et le cœur de la foi, c'est la rencontre avec le Christ. Et ça se passe dans des paroisses, dans des églises. Ça se passe pas tout seul.
Et si possible, pas l'exclusion, c'est ça.
Donc, pas d'exclusion.
Yves Toledano, vous êtes avocat spécialisé dans le divorce. Le divorce par consentement mutuel n'est autorisé que depuis 40 ans en France. Ça veut dire divorce à l'amiable, en fait. Hein. Mais du point de vue de la loi, ça veut dire quoi et ça se passait comment avant?
Alors, avant, c'était un divorce, en fait, qui était à l'initiative d'un des conjoints uniquement. Ça a changé. Alors, depuis 40 ans, on n'est pas passé à 40 ans directement au divorce à l'amiable qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évolutions. La dernière en date, elle date de 2005, enfin, la loi de 2004 qui a été promulguée en 2005.
Il faut rappeler qu'en gros, on peut divorcer depuis la Révolution française,
oui,
grosso modo.
On peut divorcer depuis extrêmement longtemps. Il y a beaucoup d'évolutions sur la façon dont on pratiquait le divorce et surtout sur la prise d'initiative du divorce et sur les conséquences du divorce. C'est vrai qu'on a avancé tout doucement avec l'évolution de la société, tout naturellement à pouvoir aujourd'hui faciliter l'accès au divorce, aussi bien à la femme qu'au mari, et dans des conditions qui sont de plus en plus simples. C'est surtout ça qui a bougé. Aujourd'hui, le divorce amiable, depuis le 1er janvier 2005, est extrêmement simple. C'est une simple requête, il y a une seule audience devant le juge, et c'est extrêmement rapide. Donc on est vraiment dans la simplification extrême. L'étape suivante, ce serait peut-être de supprimer le juge, on en a parfois évoqué, ou supprimer l'avocat.
Ça engorgerait les tribunaux pour ceux qui ne divorcent toujours pas à l'amiable. C'est quand même moitié-moitié aujourd'hui, hein. Divorce à l'amiable,
alors,
50%.
Aujourd'hui, il y a 6 divorces sur 10 qui sont à l'amiable.
Un peu plus.
Et le reste qui sont contentieux. Et dans le
donc
reste.
Donc en contentieux, c'est-à-dire qui encombrent les tribunaux.
Qui encombrent les tribunaux, exactement. Mais moi, à titre personnel, je suis pas favorable à supprimer le juge ou l'avocat. L'avocat, ça m'arrangerait pas. Mais même à part ça, c'est vrai que le juge doit rester là pour homologuer la convention. C'est pas parce qu'on divorce à l'amiable qu'on peut rédiger n'importe quoi. Le juge vérifie quand même que l'intérêt des époux est préservé. Et surtout l'intérêt des enfants. Donc, faut pas zapper cette étape.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans le cas d'un divorce à l'amiable, donc divorce libre par consentement mutuel, l'avocat est nécessaire.
Oui.
Même s'ils sont d'accord tous les deux.
Oui, on peut pas divorcer aujourd'hui sans la présence d'un avocat. C'est l'avocat qui va rédiger la convention de divorce, qui va également vous conseiller, vous orienter. Souvent, les conjoints qui divorcent n'ont pas d'idée sur le montant de la pension, de la pression compensatoire, comment ça se passe pour les enfants. Les gens sont pas juristes, tout le monde n'est pas juriste, donc il faut bien qu'on explique la situation. Et l'avocat vérifie et rédige. Et ensuite, c'est homologué par le juge. Il y a quand même deux étapes.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous parlons du divorce. Comment est-il perçu dans votre pays? Appelez-nous si vous êtes concerné, de près ou de loin.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons une voisine qui est à Dakar, au Sénégal. Poulo, bonjour.
Bonjour, Emmanuel Bossé.
C'est bien votre prénom, hein, je me trompe pas.
Oui, c'est Poulo, mais non, c'est mon pseudo.
Alors, vous avez 45 ans, vous êtes une femme mariée aujourd'hui.
Ouais.
Vous êtes mariée depuis combien de temps?
Depuis 20 ans.
Et vous avez tenu à vous exprimer sur le sujet. Pourquoi c'est un sujet important pour vous?
Oui, parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de divorces partout dans le monde. C'est pourquoi vous avez fait le thème dans votre radio. Et moi, je trouve que nous nous marions pour toute la vie. Quand on choisit un homme, c'est pour toute la vie, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je trouve que le divorce n'est pas bon pour l'enfant, même pour les deux parents, parce que la séparation est très difficile.
Donc, vous êtes mère de famille, Poulo, vous avez un fils, je crois.
Oui, je suis un fils, ouais.
Ouais,
mais moi, je...
Oui, oui. On vous écoute, Poulo.
Oui, j'ai juste un fils, mais je reste dans mon ménage à cause de mon enfant, parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Moi, je trouve que le divorce est un échec, et moi, j'aime pas l'échec. C'est mal vu, peut-être dans mon ethnie, dans notre ethnie, le divorce, c'est quelque chose, c'est mal vu, quoi. Mm. Si on choisit un homme, c'est pour toute la vie. Mm. On reste dans le ménage à cause de nos enfants.
Votre fils a quel âge aujourd'hui, Poulo? Votre fils, oui. Il a quel âge?
Il a 17 ans.
Et vous dites, si je reste aujourd'hui, c'est pour mon fils. Ça veut dire que sinon, si vous n'aviez pas cet enfant?
Non, si je n'avais pas cet enfant, peut-être, si je vois quelque chose qui ne me plaît pas ou on ne s'entend pas, je pouvais partir. Mais si on a un enfant, on doit rester dans le ménage. Moi, dans le ménage, parce que quand tu entres dans le mariage, c'est par amour. Mais à la longue, l'amour diminue. Et on reste là-bas pour les enfants. Si on a un enfant, on doit rester dans le ménage.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les femmes restent pour leurs enfants ou également au Sénégal à cause de la difficulté, voire parfois de l'impossibilité d'être une femme divorcée dans la société sénégalaise, même si c'est parfaitement légal, hein?
Mais c'est pas ça. Mais parfois, on a les moyens. On travaille, on a tous les moyens, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que on peut avoir tout dans la vie et ne pas être heureux. Et comment je vous pose la question, tu choisis un mari, hein, l'enfant est né de cette union. Est-ce que l'enfant a choisi son père? Et pourquoi divorcer? Le problème, c'est toi avec son papa, mais c'est pas l'enfant n'a rien fait.
Ouais. Alors, Oran de Motor, vous souhaitez prendre la parole. Oran de Motor, je vous le reprécise, hein, Poulo, responsable des questions de famille à la Conférence des évêques de France.
Oui, bonjour Poulo, j'entends bien votre témoignage et je voudrais réagir. Effectivement, le mariage, c'est une bonne nouvelle pour toute la vie. Voilà, quand on s'engage dans le mariage, et c'est l'aspiration des gens qui se marient, hein, c'est, qu'ils soient catholiques ou non, c'est pour la vie.
Ouais, alors vous êtes de confession musulmane, hein, je précise, Poulo, vous c'est ce que vous avez dit au standard.
Oui, je suis musulmane. Voilà. Je suis musulmane.
Et bien justement, j'entends ça, et en fait c'est une aspiration qui est dans le cœur de chacun. Quand on se marie, c'est pour toujours. Alors après, la vie conjugale, eh ben, elle est ce qu'elle est. Moi, je suis mariée depuis assez longtemps, comme d'autres. On sait bien, il y a des bons moments, des mauvais moments. C'est tout un chemin à parcourir. Et ça se fait avec plus ou moins de peine, plus ou moins de difficultés, selon les uns et les autres. Mais ce chemin-là, ça vaut le coup de le parcourir. Et ce « pour toujours », c'est quand même chouette. C'est quand même important. On ne se marie pas en se disant « bon, mais écoutez, dans 6 mois, on verra ». Donc j'entends ce que dit Poulo et je consonne avec elle.
Et Yves Toledano, vous aujourd'hui, les couples que vous recevez, ce sont des couples qui souhaitent divorcer parce que ça y est, ils ont fait un grand morceau de route ensemble et c'est la fin. Ou au contraire, aujourd'hui, vous observez des couples qui souhaitent se séparer après très peu de temps, très peu de vie conjugale ensemble.
Il y a les deux cas de figure, mais ce que vous dites là est intéressant parce que, et ce que dit notre auditrice également, c'est vrai que la présence des enfants, c'est un facteur extrêmement important dans le choix de la séparation. Effectivement, des couples parfois attendent que les enfants quittent le domicile, soient grands pour divorcer. Donc on a des divorces après une 20 ou 25 années de mariage parfois. Ou à l'inverse, certains divorcent très vite avant d'avoir eu un enfant en se disant, bon, au moins il n'y a pas d'enfant, on peut divorcer très rapidement. Donc c'est vrai que souvent on est dans ces deux cas de figure et notre auditrice a tout à fait raison. Les enfants sont les premières victimes et c'est vrai que je pense que beaucoup de couples réfléchissent à deux fois avant de se séparer ou divorcer. Pour les enfants, pour leur bien-être.
Poulo, merci beaucoup d'être intervenu à l'antenne et très bonne journée à Dakar.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
C'était un plaisir pour nous aussi de vous accueillir. Bien évidemment, les voisins, les voisines, n'hésitez pas à nous appeler, n'attendez pas la fin de l'émission, parce qu'après vous êtes déçus au standard. On parle du divorce aujourd'hui, appelez-nous si vous êtes dans cette situation-là. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est la situation des personnes divorcées, comment elles sont perçues dans la société où vous vivez. 33 1 84 22 71 71, Oran de Motor, Yves Toledano, vous restez avec nous. Et nous serons en ligne avec plusieurs situations. On parlera de l'Asie, on parlera du Proche-Orient juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du divorce. D'abord parce que le divorce a 40 ans cette année, le divorce libre par consentement mutuel en France. Et puis surtout, c'est un vrai sujet de débat parmi d'autres, à l'occasion du synode des évêques. 360 évêques en discussion.
À Rome, en ce moment, il y a 270 évêques et puis des auditeurs, des experts. Il y a même des femmes.
Faites bien de le rappeler. Aurane de Motor, vous êtes responsable des questions de famille à la Conférence des évêques de France. Et Yves Toledano, vous êtes un avocat spécialisé dans les questions de divorce et fondateur de Radio Divorce, première radio web consacrée au divorce et à la séparation, avec énormément de renseignements, de réponses données aux questions des personnes concernées. Alors, vous le savez, le mariage dans un très grand nombre encore de pays ne peut être que religieux, quelle que soit la religion. C'est le cas d'Israël où les ruptures sont du coup compliquées. Nous sommes en ligne avec Denis Charbit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue à Tel Aviv et vous intervenez souvent dans les médias, d'ailleurs y compris dans le nôtre, davantage pour parler division et conflits politiques, comme c'est le cas actuellement. Votre pays vit une nouvelle flambée de violence. Néanmoins, dans votre dernier ouvrage, Israël et ses paradoxes, vous consacrez une large partie du livre à la société israélienne, société moderne, mais où le divorce peut devenir un enfer, notamment pour certaines femmes. Expliquez-nous comment fonctionne le divorce chez vous, Denis Charbit.
Alors, il faut préciser peut-être au préalable que, contrairement à tous les pays de l'Union européenne, en Israël, les mariages sont strictement confessionnels. C'est-à-dire que chaque religion administre les mariages et donc les divorces. Cela veut dire que les chrétiens en Israël ne peuvent pas divorcer. Cela veut dire que les musulmans divorcent selon la procédure de la charia, ce qui peut paraître d'ailleurs très paradoxal pour un État juif comme l'État d'Israël. Mais cela veut dire, bien sûr, que pour la majorité des habitants du pays qui sont juifs, eh bien, la procédure est une procédure religieuse. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que on ne peut divorcer en Israël que si formellement, et je précise, formellement, le mari décide d'accorder le divorce, donc décide de rompre le couple. Et cela veut dire donc en clair qu'il y a, en dépit de l'égalité sociale formelle entre les sexes en Israël au niveau des lois, eh bien concernant le divorce, dans la mesure où c'est une institution qui est régie par l'autorité religieuse, en l'occurrence ici juive pour ce qui concerne les juifs, eh bien là, nous avons une inégalité structurelle, alors qui peut ne pas poser de problème, bien entendu, pour tous les cas où les deux personnes veulent, pour reprendre la terminologie française, divorcer à l'amiable, c'est-à-dire que les deux parties sont d'accord pour mettre fin à leur union, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas d'enfants. C'est toujours un tribunal rabbinique qui va décider, mais dans la mesure où les deux parties sont d'accord, la procédure se fait très rapidement. Où est le problème ? Le problème se pose quand la femme veut divorcer, veut mettre fin à cette union conjugale, mais le mari se montre récalcitrant. Et là se pose un problème qui est un véritable scandale, c'est-à-dire que il y a un grand nombre de cas dans lesquels le mari use de cette autorité qui lui est confiée, puisque c'est lui qui doit dire clairement, formellement, je prononce le divorce, et dans ce cas-là, effectivement, ça peut créer des situations insupportables, intolérables, et très souvent, les médias s'en saisissent pour montrer le cas de certaines femmes qui n'obtiennent pas le divorce parce que le mari est un récalcitrant.
Oui. Mais ce qui veut dire que le tribunal rabbinique, en fait, ne peut rien décider si l'homme ne décide pas de prononcer, d'ailleurs je crois qu'il prononce une phrase, hein, c'est ça, pendant une cérémonie. Le tribunal ne peut pas peser pour que l'homme accepte le divorce.
Alors, il peut peser sur le mari récalcitrant en lui interdisant de voyager à l'étranger, en lui saisissant son permis de conduire. Ceci parce que ça crée tellement de problèmes. Pourquoi ? Parce que au moment du partage des biens, très souvent, les maris en profitent de cette situation-là où ils ont un privilège incontestable pour arracher des concessions supplémentaires. Tu veux que je prononce le divorce ? L'appartement m'appartient dans l'intégralité, etc. Alors, très souvent, le tribunal rabbinique est conscient de l'inégalité de la situation, fait peser sur le récalcitrant des mesures, parfois même d'internement dans des cas extrêmes, mais en aucun cas, le tribunal rabbinique, qui est respectueux donc de la tradition
religieuse, ne peut se substituer à la décision du mari. Oui.
À la décision du mari. Le mari doit prononcer la phrase en question.
Ce qui veut dire que dans les faits, les divorces en Israël, ça se passe pas très bien.
Alors, dans la plupart des cas, ça se passe très bien, dans la mesure où, en général, voilà, quand on est, je dirais, deux personnes arrivent à la conclusion qu'elles ne s'entendent pas, eh bien, si l'homme, on va dire, est honnête, si l'homme veut lui aussi, finalement, finir les choses comme il se doit, eh bien, les choses se passent relativement bien. Mais, malheureusement, il y a des cas, ça s'élève à peut-être 5 ou 10%, et je dirais, c'est précisément parce que ce n'est pas un taux très élevé, qu'il n'y a pas de pression politique pour modifier la législation. En même temps, comme je l'ai dit, le tribunal rabbinique est sensible au scandale que cela suscite dans ces occasions-là pour essayer de faire pression, mais encore une fois, pression ne veut pas dire substitution. Et récemment, un film de Roni Tel Kabetz a illustré ce cas-là. C'est un film qui se passe dans le huis clos d'un tribunal rabbinique où un homme veut maintenir l'union, mais la femme incarnée par Roni Tel Kabetz refuse, demande le divorce et ça se termine très mal puisque le tribunal rabbinique prend parti pour le mari, pour l'union, pour la perpétuation du couple et non pas pour la rupture.
Mais alors dans le cas où donc un mari n'accepte pas le divorce, une femme peut, si elle en a les moyens économiques, peut tout à fait quitter le foyer, refaire sa vie, on est bien d'accord, hein?
Oui, alors si ce n'est que comme elle, alors tout dépend si elle est pratiquante ou pas. Si elle n'est pas pratiquante, à ce moment-là, ben elle vivra en concubinage avec un nouveau conjoint, et ça ne posera absolument aucun problème du point de vue des autorités israéliennes. Mais attention, si elle a un enfant de ce concubin, elle est en état d'adultère puisque le divorce n'a pas été prononcé. Et alors là, du point de vue des autorités religieuses, je précise bien des autorités religieuses, l'enfant est considéré ni plus ni moins que comme un bâtard. Alors ça veut dire quoi au regard de la société israélienne et des autorités civiles, ça ne posera absolument aucun problème. Mais lorsque ce bâtard, puisqu'il est né d'un adultère, demandera à se marier, il ne pourra tout simplement pas se marier en Israël. Et là, ça crée des situations extrêmement... Alors il y en a très peu, hein. Mais donc cela veut dire en clair que l'homme, lui, même si le divorce n'est pas prononcé, pourra lui se remarier religieusement. Mais en revanche, la femme, parce que le divorce n'a pas été prononcé, pourra vivre avec un concubin, mais en revanche, elle ne pourra pas officialiser son mariage en Israël, puisque, encore une fois, le mariage est confessionnel en Israël.
Eh bien, merci beaucoup, Denis Charbit, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez publié Israël et ses paradoxes, en voilà un, aux éditions Le Cavalier Bleu. Yves Toledano, vous souhaitez réagir?
Non, ce qu'expliquait Denis Charbit était très intéressant, effectivement, c'est un paradoxe, c'est vrai, la société israélienne est extrêmement ouverte, et il y a l'égalité entre hommes et femmes vraiment de manière totale. Dans ce domaine-là, c'est une exception, c'est vrai. Alors, comme il a été rappelé, la loi, c'est la loi religieuse, donc c'est celle qui prévaut. Mmh. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a énormément de pressions qui sont mises sur les maris récalcitrants. On peut effectivement, ça a été rappelé, aller jusqu'à les enfermer. Mmh. Donc, il y a des pressions.
Notamment par l'entourage aussi.
Oui, alors l'entourage, mais même au niveau de la société elle-même, c'est extrêmement mal vu aujourd'hui, cette détresse de certaines femmes. Heureusement, c'est extrêmement minoritaire, mais ça existe encore. Et c'est vrai que la loi est celle-ci.
Alors, en tout cas, on a un cas intéressant pour la religion juive, hein, Oran de Motor, puisque vous vous occupez des questions de famille à la Conférence des évêques de France. C'est que, contrairement au mariage catholique où les liens du mariage sont indissolubles, là, effectivement, dans la religion juive, le divorce, enfin le mariage peut être rompu religieusement.
Alors, chez les catholiques, en fait, quand on se marie religieusement, après un mariage civil, donc, qui est l'étape première en France et dans la plupart des pays du monde, pas en Italie, je fais une petite exception, en Italie, le mariage religieux suffit, en fait. Il vaut mariage civil, un peu comme en Israël, du coup.
Si, hein, si on le précise bien, hein, évidemment.
Voilà. Le mariage religieux vaut mariage civil, comme en Israël, en Italie. C'est amusant, finalement.
Oui.
Donc, pour les catholiques, en fait, se marier religieusement, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Ça veut dire que on invite Dieu de manière un peu spécifique à venir partager notre vie de couple. On ne va pas avancer seul dans ce mariage. On laisse une place importante à Dieu. Du coup, on parle quelquefois de manière un peu erronée, donc du fait que il y aurait un divorce catholique qui serait les reconnaissances de nullité de mariage. Là, je vais peut-être expliquer en un mot.
Le mariage peut, en théorie, être annulé.
Alors, le mariage ne peut jamais être annulé. Le mariage ne peut jamais être annulé. En fait, on peut reconnaître qu'il n'y a pas eu vraiment mariage religieux. Autrement dit, on dit que le mariage a été nul. Alors oui, le mot est effroyable.
Sur quel critère, pour quel cas ?
Le mot est effroyable, le mot nul, parce qu'en fait, les gens ont bien été mariés dans leur vie, etc. Mais on dit, finalement, les mariés et aussi la communauté chrétienne, le prêtre, les témoins, ont cru, d'une certaine manière, qu'il y avait un véritable engagement religieux dans le mariage. Et en fait, il n'y a pas eu véritablement engagement dans le mariage. Par exemple, les mariés étaient très jeunes et ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
Ouais. Bon, ou bien ils n'étaient pas vraiment libres. Ou alors on dit le mariage n'a pas été consommé. Bon, quand
non,
c'est au bout de plusieurs mois.
C'est... Le point, c'est plutôt que souvent les gens ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ou bien alors il y a eu des pressions. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais imaginons une jeune fille, une jeune femme enceinte, et les parents qui disent allez, vas-y, marie-toi. Est-ce que ce Roméo et cette Juliette était libre.
Alors, c'est une procédure qui est quand même extrêmement longue, extrêmement compliquée. Le pape souhaite assouplir, ça va être assoupli. Hein,
alors, le pape vient prochain. On est vraiment à la pointe de l'actualité aujourd'hui. Le pape a décidé il y a un mois, par un texte officiel, de simplifier cette procédure. On est sur le terrain de la procédure. Donc, ça ne pourrait parler à l'avocat. La procédure va être raccourcie, va être gratuite, parce que en France, en fait, où on n'a pas une culture juridique, il y a à peu près 500 demandes par an de reconnaissance de nullité. Aux États-Unis,
sur les 500,
c'est 5000.
Combien sont obtenus ?
Oh, la majorité. La majorité. Mais les gens en France n'ont pas envie de rentrer dans cette procédure parce qu'elle leur paraît une procédure juridique. Et eux, ils disent, mais moi, j'ai vraiment vécu quelque chose. Alors, pour certains, c'est une voie. Mais, et donc, il est bon qu'elle existe. Mais pour la majeure partie des catholiques, ils n'ont pas envie de rentrer là, notamment à cause de leurs enfants, parce qu'ils ont des enfants et ils disent... c'est pas nul ce qu'on a vécu.
Oui, c'est effectivement un message difficile à encaisser pour
donc,
les enfants. Le divorce est déjà difficile, la séparation aussi, la nullité, c'est encore pire.
Absolument.
Quand il y a des enfants. Pour les États-Unis, vous souhaitiez nous apporter...
Alors, pour les États-Unis, qui ont une culture juridique très développée à tout point de vue, en fait, là, les Américains, ils s'engouffrent dans cette procédure et ils ne comprennent absolument pas les réticences des Français ou des gens d'Amérique latine. Pour eux, ça va de soi et donc il y a à peu près 5000 personnes par an... pour un pays de taille comparable, 5000 reconnaissances de nullité.
C'est ça, qui demandent la nullité et qui l'obtiennent.
Alors qui l'obtiennent en partie, pas tous, mais en partie.
En pleine mondialisation, le divorce évidemment évolue beaucoup, nous le voyons dans le monde. On est en ligne avec Joris Zilberman, rédacteur en chef d'Asialiste.com, un tout nouveau média d'information en ligne qui est dédié entièrement à l'Asie. Bonjour Joris.
Bonjour.
Je voudrais qu'on parle avec vous du divorce en Chine, parce que, bon, aujourd'hui, le divorce est tout à fait autorisé en tant que liberté individuelle en Chine.
Absolument, et il faut dire que en Chine, si on remonte avant la période communiste, le divorce se réduisait à une simple répudiation de l'épouse par le mari, et puis sous l'ère maoïste, pour divorcer, il fallait obtenir une autorisation de son employeur, du chef de son unité de travail, la Tanwei. Le Parti communiste chinois voulait alors contrôler la mobilité sociale des Chinois dans le cadre du contrôle de leur vie privée. Et donc, il n'était pas du tout question d'autoriser comme ça le divorce pour des problèmes de couple ou autre. Il faut attendre, en fait, l'ouverture de la Chine dans les années 80, la fin de l'unité de travail, pour avoir une libéralisation graduelle du divorce jusqu'à cette loi de 2003 qui a supprimé l'autorisation préalable de l'employeur. Aujourd'hui, divorcer en Chine est une simple formalité administrative, d'où d'ailleurs l'explosion du nombre de divorces.
Ah oui, alors quand vous dites l'explosion, ça veut dire quoi aujourd'hui en Chine ?
C'est-à-dire que si on compare avec les sociétés occidentales, ce n'est pas encore au même niveau, mais c'est selon certains chiffres un mariage sur quatre qui se terminerait plus ou moins rapidement par un divorce.
Oui, donc on n'est pas très très loin. On parle d'une union sur trois en France et dans pas mal de pays européens. Mais alors, globalement en Chine, quand on divorce parce qu'il y a des accords, parce qu'on s'aime plus, parce qu'on ne se supporte plus.
Alors, évidemment, comme partout ailleurs, les Chinois divorcent d'abord pour des problèmes de couple. Et d'ailleurs, la principale raison, la raison écrasante, c'est l'adultère, l'infidélité. Mais il y a d'autres facteurs, même s'ils sont minoritaires, qui font que le divorce en Chine a des caractéristiques chinoises. Récemment, la presse chinoise parlait d'un couple de Canton, donc dans le sud du pays, qui a divorcé non par des amours ou trahison, mais pour faciliter la scolarité de l'enfant. C'est le mari qui a proposé à sa femme de divorcer, car il n'habitait pas dans un district avec de bonnes écoles. Le mari a donc proposé que la petite famille déménage chez les beaux-parents, eux installés dans un quartier avec de très bonnes écoles. La carte scolaire en Chine est extrêmement rigide, donc l'enfant a pu être enregistré chez ses grands-parents et a pu rentrer dans une bonne école. Ce n'est pas du tout un cas isolé dans le pays. Il y a aussi d'autres raisons au divorce en Chine, comme la volonté d'avoir un deuxième enfant, de contourner la politique de l'enfant unique. C'est l'histoire de nombreux couples qui veulent donner un frère ou une sœur à leur première progéniture pour qu'ils ne soient pas seuls dans la vie après le décès des parents. Et lorsque l'un de ses parents n'est pas lui-même un enfant unique, suivant les cas, il est soit interdit d'avoir un deuxième enfant, soit il faut payer une amende extrêmement chère. Mmh. Et pour certains, la meilleure option, eh bien, c'est de divorcer. Alors évidemment, l'après-divorce est très dur pour ces couples qui veulent continuer quand même à vivre ensemble parce qu'ils s'aiment, car il faut vivre caché, loin des regards de l'administration, des autorités, sous peine d'avoir à payer des amendes très lourdes.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Joris Zilberman, on peut divorcer parce qu'on s'aime en Chine. Aussi paradoxal que ça peut
se... L'amour peut être une cause de divorce.
Oui, c'est ça.
Quand même ses enfants.
Exactement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. À découvrir, bien sûr, toute la vie de l'Asie sur asialiste.com, un nouveau média d'information en ligne extrêmement riche avec des sujets, société, religion, économie, politique. Merci infiniment. Vous pouvez nous appeler. On parle du divorce aujourd'hui, les évolutions de la famille, de la société. 33 1 84 22 71 71.
Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Je n'ai quand même pas gâché 100 bouquets pour rien. Je n'aurais pas marché pour rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te pleure. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi, le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie. Tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça ferait un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'ai quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je n'aurais pas dit 100 fois le temps jouera pour moi. 100 fois mon heure viendra. 100 fois reprends-toi. 100 fois pourquoi t'oses toujours pas? Pourquoi t'oses toujours pas? Je te promets, je ferai 100 fois le tour. Je te promets, je pousserai les parois tout autour. Je te promets, j'y arriverai. Je te promets, je te pleurerai. Je te promets, je ferai 100 fois le tour. Je te promets, je pousserai les parois tout autour. Je te promets, tu l'oublieras. Je te promets, tu l'effaceras. S'il te plaît.
C'est Kabadzi chez 7 milliards de voisins, 100 fois. Nous parlons du divorce aujourd'hui avec vous Yves Toledano. Vous êtes avocat spécialisé dans les affaires de divorce et vous avez lancé il y a quelques mois une radio web, certes web, mais qui émet 24h sur 24. Sur le divorce, ça s'appelle la radio divorce.
Oui, c'est assez original, ça n'existe nulle part a priori, puisque divorce en anglais se dit divorce, donc j'ai fait des recherches sur internet pour voir si ça existait, j'en ai pas trouvé. Dans l'idée peut paraître un peu saugrenue, parce qu'on se dit mais déjà, radio divorce, le nom ne donne pas envie d'écouter forcément cette radio toute la journée, mais en fait on essaie de positiver, de donner beaucoup de conseils pour tous ceux qui sont en procédure de divorce, tous ceux qui se séparent. Parfois des conseils permettent également d'éviter des crises et donc de venir en amont
éviter. De ne pas divorcer, justement.
De ne pas divorcer.
C'est bien ça.
C'est le but, oui, si. On a des thérapeutes, on a des psys qui interviennent, des médiateurs familiaux, aujourd'hui il y en a beaucoup, et qui viennent expliquer comment faire pour résoudre les problèmes de crise de couple et essayer d'éviter justement cette extrémité qu'est le divorce. Mais pour ceux qui sont dans cette décision de divorcer, on leur apporte des conseils juridiques. Alors on est tous bénévoles dans cette radio, on donne des conseils, c'est parfaitement gratuit. C'est vraiment pour essayer de rendre service et d'apporter un petit peu, de vulgariser aussi un peu le droit, expliquer la procédure de manière simple à ceux qui sont confrontés.
Les questions qui reviennent le plus fréquemment, justement.
Alors beaucoup de questions au niveau de la procédure. Est-ce qu'on doit prendre un avocat? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on démarre un divorce? Après, il y a beaucoup de questions sur les enfants. Les enfants, c'est vraiment, vraiment le point sensible, la question cruciale, avec peut-être l'argent, mais je dirais quand même les enfants en premier, parce que c'est vraiment à fleur de peau. Donc comment se passe la garde, les conditions de la garde, le montant de la pension alimentaire, etc. Et puis, je le disais, donc l'argent aussi, parce que l'argent revient dans beaucoup d'endroits du divorce, la pension alimentaire, la prestation compensatoire pour le conjoint, des dommages intérêts s'il y a faute, le partage des biens. Donc l'argent, il est incontournable comme sujet lorsqu'on divorce.
Est-ce que les personnes qui conseillent, donc il s'agisse de juristes ou de psy ou de conseillers conjugaux, posent la question, mais pourquoi vous voulez divorcer, ou n'ont pas à poser cette question-là sur Radio Divorce?
Alors honnêtement, on pose pas la question, parce que bon, après on cherche pas à savoir l'intimité de chacun et qu'est-ce qui les emmène. C'est vrai, par contre, à partir des questions des auditeurs, on devine parfois l'origine du mal-être, et on essaye un petit peu de creuser là-dessus et de désamorcer certaines crises. Mais c'est vrai qu'on répond vraiment à des questions de procédure assez basiques que se posent les gens.
Comment vous sentez les évolutions du divorce dans un pays comme la France, puisque vous êtes avocat depuis de nombreuses
17
années,
ans.
17 ans, spécialisé dans les questions de divorce, vous aurez encore du boulot longtemps, non? C'est ce que tout le monde vous dit.
Oui, je souhaite pas, parce qu'on peut très bien faire autre chose.
Sauf s'il y avait plus besoin d'un avocat pour divorcer.
Oui, c'est vrai. Bon, je pense pas qu'on en sera là, parce que c'est vrai que l'avocat est indispensable, à mon avis, pour conseiller, mais évidemment, je prêche pour ma paroisse, hein, c'est sûr, mais je pense qu'on peut pas laisser comme ça au conjoint cette décision et surtout les conséquences du divorce. À la limite, les gens décident de divorcer librement et chacun fait comme il le souhaite, mais par contre, les conséquences du divorce, surtout sur les enfants, les conséquences financières, sur beaucoup de choses, ça, on peut pas les laisser comme ça, des gens qui ne sont pas juristes. Il y a beaucoup de choses à voir.
De nombreux couples aujourd'hui ne se marient plus. Néanmoins, vous le disiez tout à l'heure, la séparation reste complexe, d'autant plus quand il y a des biens qui ont été acquis et puis des enfants. Est-ce que ces couples-là vous sollicitent aussi sur Radio Divorce?
Oui, alors lorsqu'on se sépare, on ne divorce pas, on se sépare. Si on n'a pas d'enfants, ça pose pas de problème. On n'est pas obligé de voir un avocat. On le fait généralement tranquillement, même s'il y a de l'argent. Bah, c'est comme si vous étiez en indivision avec votre frère, votre collègue. On partage les biens. Par contre, quand il y a des enfants, là, il faut fixer la garde des enfants, le droit de visite de l'autre et le montant de la pension alimentaire. Et là, généralement, on se retrouve devant le juge d'affaires familiales. Donc, faut prendre un avocat si vous voulez que ça soit fait dans les règles de l'art. Et on se retrouve devant le juge. Donc, la séparation implique aussi souvent le passage devant le tribunal.
Moi, je crois que c'est intéressant de parler aussi de la séparation quand on parle du divorce. Parce que séparation et divorce, avec enfant, sans enfant, avec bien ou sans bien, mais c'est pas le point majeur, ça laisse des traces quand même dans la vie des personnes. On peut pas dire que c'est rien, on peut pas dire que ça se fait d'un claquement de doigts. C'est quand même douloureux, c'est quand même violent, même si parfois...
Ça, tous les témoignages le confirment,
même si
quand
parfois, c'est
à l'amiable.
C'est nécessaire, et même l'Église le dit, il y a des situations de vie, quand la vie des conjoints ou la vie des enfants, morale ou spirituelle, est en danger, il vaut mieux parfois se séparer. Hein? Il y a même des textes du droit canon qui le disent. Mais le divorce, comme la séparation, ça laisse des traces. Et donc, un des points quand même à dire, c'est... Essayez de vous réconcilier et n'idéalisez pas trop la vie de famille. La vie de famille, c'est formidable, hein. On est d'accord avec ça. Le mariage pour toujours, c'est formidable. Mais il y a des moments où c'est un peu difficile.
Même, vous êtes obligé de constater les évolutions de la famille, pas qu'en France d'ailleurs,
oui.
Le poids grandissant des familles recomposées. Les sociologues de la famille décrivent à longueur de livres des bouleversements considérables de la famille, avec des enfants qui sont finalement devenus le socle de la famille, beaucoup plus que le couple. Une famille bouleversée où l'immuable, ce sont les enfants dans les sables mouvants du mariage et du divorce.
Alors,
vous le reconnaissez, ça,
alors,
quand même.
Oui, mais le couple, ça reste quand même le début. Hein, le couple, ça reste le début de l'histoire.
D'accord.
Et ça, qu'on le veuille ou non, ça reste le début de l'histoire, donc on peut pas balayer d'un revers de la main la vie des couples. Par contre, c'est vrai que les évolutions sont là. Si on parle de la France, les évolutions sont indéniables. Depuis 40 ans, on le constate. Et puis, c'est vrai aussi dans les autres continents. Si on parle de l'Afrique, puisqu'on est sur RFI, moi, je parlais avec des Congolais. il y a 15 jours que j'ai rencontré à la rencontre mondiale des familles qui a eu lieu à Philadelphie, au moment où le pape François est venu aux États-Unis. Ben, il me disait, les questions qui nous sont posées, c'est les questions de la polygamie. C'est bien des questions qui nous sont posées. La question du divorce. C'est une vraie question pour les Congolais. C'est pas un truc qu'on peut balayer d'un revers de la main. Et puis, il y a aussi d'autres questions qui se posent. La question du mariage coutumier, enfin, du mariage par étapes. Mariage coutumier, avec le problème de la dot, qui est quelquefois extrêmement cher.
Mais là aussi, vous reconnaissez aussi les dissensions entre, en Afrique, des sociétés majoritairement conservatrices, mais dans la réalité, des mamans qui ont plusieurs enfants, parfois de pères différents, qui élèvent seuls leurs enfants aussi. C'est ça aussi la réalité des familles africaines.
Mais oui, il y a aussi cette réalité-là. Il n'y a pas que ça. Il ne faudrait pas réduire la vie de famille africaine à ces difficultés. Mais il y a aussi ces difficultés-là avec effectivement des enfants, par exemple, des enfants des rues. C'est une vraie un vrai souci pour l'Église qui est en Afrique. Les enfants des rues qui quelquefois sont là pour des questions de pauvreté ou de maman abandonnée.
Alors le pape, on le dit beaucoup, les observateurs, les spécialistes des questions religieuses disent que le pape aimerait faire bouger les lignes sur les questions de la famille, notamment sur celle des divorcés remariés, mais qu'au bout du compte, rien ne devrait changer.
Alors moi, je ne suis pas dans la tête du pape. Hein. Je ne veux pas me prononcer pour lui. Ce que tout le monde constate, c'est que le pape, il est à la fois dans la doctrine la plus classique, où il dit que le mariage entre l'homme et la femme, pour toute la vie, c'est une bonne nouvelle. Et que la vie de famille, c'est une bonne nouvelle, et qu'il faut oser y aller. Il dit, oser vous engager, oser aller dans la vie de famille. Et puis, en même temps, il connaît vraiment les difficultés des familles. Il est pasteur, il sait que, quelquefois, les assiettes volent, comme il dit. Et donc, il veut tenir les deux. Accueillir les personnes et en même temps tenir la doctrine.
Merci à vous, Arnaud Motor, responsable des questions de famille, à la société, à la conférence des évêques de France. Tout au long du synode, d'ailleurs, RFI vous propose de nombreux reportages et débats sur la place de la famille en Afrique. Vous retrouvez tout ça, bien sûr, sur notre site rfi.fr. Yves Toledano, on va donner le site de Radio Divorce, quand même.
Avec plaisir, Emmanuel, merci. C'est radiodivorce.fr sur Internet et puis l'application également sur tous les smartphones est gratuite. Hein.
Merci également à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz, et pour toutes vos réactions, vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de l'obsolescence programmée. Smartphones, tablettes et autres joujoux high-tech, sommes-nous programmés pour consommer toujours plus? À demain.